pourra trafiquer la voie et mettre de la rock.
J'ai enfin compris. Vous n'êtes pas un charlatan. Vous êtes un génie.
On va pas aller non plus aller trop loin.
Radio Campus, il est où l'émetteur?
Radio Campus, 88.3.
Si pour vivre il faut s'écraser face à des bâtards dans ton genre, je préfère mourir droit dans mes sandalettes et la tête haute.
Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis.
Très bien. Je vais aller chercher toutes les boules de cristal et quand je les aurai, je rendrai la vie à ton père.
Regarde bien. Voici ce qui arrive à celui qui brave l'interdit. À celui qui veut ressusciter les morts.
Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi.
Tu vas voir, on ne me tue pas, moi, je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort, oh non.
Après la légendaire émission Animanga, la culture pop du Japon ressuscite sur Radio Campus Orléans. De l'actu, des débats, des chroniques, des trucs plus ou moins mignons, le Kawaii Campus Club, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h.
Et effectivement, c'est tous les vendredis, les deuxièmes vendredis du mois à 19h. On est de retour sur Radio Campus Orléans, Kawaii Campus Club. Bienvenue à toutes et à tous, chers fans d'animation japonaise et de manga, et chers néophytes aussi, si vous venez nous découvrir en tout cas. Nous allons passer une heure en votre compagnie pour traiter de notre thématique préférée. Et avec moi, un plateau entièrement composé d'hommes, malheureusement. On aime bien
on la est tous six en plus.
Là, voilà, on est tous six. Ce blanc, hétéro, bref, rien ne va ici.
Il y en a un qui n'est pas barbu, tu vois.
Il n'est pas barbu, c'est ça. Ouais. Bon, moi, j'ai une barbe de 3 jours, effectivement. Voilà, il y a des barbes très fournies.
Moi, c'est taillé. Moi.
Et puis voilà, c'est ça, très différente aussi. Voilà, il y a de la diversité en termes de barbe. Voilà.
C'est ça la diversité, c'est le quota
minimum. Merci de m'aider, voilà, Victor, de ce côté-là. Au moins, voilà, on va se rattraper comme il se doit. Salut, Victor, ça va?
Bonsoir. Ça va toi bien?
Ouais, pas de soucis, pas de problème. Merci à toi d'être parmi nous. Arthur aussi, comment est-ce que tu vas?
Ça va, tout à fait.
Ouais, très bien. Steven, à ma droite, comment est-ce que tu vas?
Moi, ça va. Je suis en train de feuilleter les mangas à gagner, donc plutôt joli.
Ouais, tout à fait. On va en parler, effectivement, puisque au sommaire de votre émission, comme d'habitude, il y a la chronique du Miskatonic Shop, les coups de cœur du mois à gagner sur notre antenne. Pour ça, vous nous appelez ou alors vous laissez un commentaire ou vous likez la publication que nous vous laisserons sur nos réseaux sociaux lundi. Mais si vous voulez gagner avant, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au numéro de téléphone que nous vous donnerons dans quelques instants. Arthur, tu entameras également nos discussions avec un édito consacré notamment au transmédia.
Tout à fait.
Voilà, ce qui nous permettra effectivement d'entrer dans le vif du sujet ensuite avec le cœur de notre émission. On avait décidé cette fois-ci de parler des animés ou mangas tels que Beyblade, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et de se poser une question extrêmement clivante: pompe à fric ou œuvre artistique? Voilà. Il va falloir trancher ou nuancer, voilà, peut-être, c'est aussi le but un petit peu de cette émission. Et puis, comme d'habitude, le jeu de fin d'émission avec toi, Steven, Game Master officiel du Kawaii Campus Club. Oh là là. Très talentueux, évidemment.
Je vous remercie.
On attend encore une fois un jeu plein de suspense et de compétitivité. Voilà pour le sommaire donc de l'émission, chères auditrices et auditeurs. On va commencer tout de suite.
Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans.
Et je vous disais en introduction d'émission, vous en avez l'habitude pour celles et ceux qui nous suivent depuis le commencement, Gaël, le gérant du Miskatonic Shop, la boutique de manga située dans le centre-ville d'Orléans, eh bien, nous propose tous les mois une chronique sur ses coups de cœur parmi les nouveautés manga qu'il peut proposer, des nouveautés à gagner. Je ne vous en dis pas plus, place au maître.
Bonjour Gaël, merci pour cette nouvelle chronique que tu nous proposes. C'est l'habitude désormais pour toi. Alors, j'ai même pas le compte en tête, mais franchement, c'est toujours des belles surprises que tu vas nous proposer. Voilà, bienvenue à toi en tout cas.
Bonjour à tous. Oui, bah moi non plus, je n'ai plus le compte. On n'arrête pas. Et là, en plus, on a eu pas mal de petites nouveautés et là j'en ai sélectionné deux qui sont vraiment des coups de cœur de l'équipe.
Ok, alors on va commencer par la couverture peut-être qui me fait le plus envie parce que tu m'en parlais un petit peu en off tout à l'heure, une sorte d'atelier des sorciers mais avec des anges, Kingdom of Quartz.
Oui, tout à fait, donc Kingdom of Quartz aux éditions Pika qui sera donc en 5 tomes terminés, donc une petite série. Donc comme tu viens de le dire effectivement, aussi bien au niveau de la patte graphique que même dans l'esprit du scénario tel que c'est fait. On retrouve énormément d'éléments de l'Atelier des Sorciers, donc ceux qui ont aimé peuvent se jeter dessus les yeux fermés. L'histoire se passe donc dans un monde fantasy où il y a eu des soucis par le passé entre des anges et des démons. Le monde a été divisé. Et donc on va suivre les aventures d'une jeune fille qui vit dans un orphelinat où il y a des enfants anges, si je puis dire, dans un monde où les gens sont anges, donc avec des ailes et tout le tralala. Elle a un petit souci, elle a un complexe, c'est que ses ailes sont noires. Alors que oulala, c'est une mauvaise fille, c'est une fille maudite, Et dans ce monde, en fait, il y a des, alors est-ce qu'on pourrait appeler ça des archanges, en gros des anges supérieurs, qui sont en nombre très limité. Et le but, enfin voilà, c'est vraiment les idoles, tout le monde veut les approcher, si t'en vois un dans ta vie, t'es super content. Et donc cette jeune fille va en croiser un qui est en plus le prince des anges, alors c'est le top bogos.
Ouais, c'est ça, ok. C'est l'homme, enfin l'ange alpha, quoi.
Ouais, voilà, voilà. Bon, alors je vous rassure, hein, il a pas un physique non plus de alpha, mais bon, c'est le beau gosse. Et il lui dit, ah bah tiens, tu me rejoindras plus tard, je suis sûr que t'as un potentiel. Il la défend face à des villageois qui font, ah non, mais c'est la fille maudite. Et cette jeune fille, effectivement, cache en elle une sorte de pouvoir qu'elle ne soupçonne pas, assez puissant, et va sauver le prince à un moment où ils doivent intervenir face à une agression de, je mets des guillemets, démons. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un peu comme, donc, comme on disait tout à l'heure à Tous les Sorciers, c'est-à-dire qu'on se dit, ah, c'est assez good vibe, c'est mignon. Non, il y a quelque chose derrière de assez sombre, hein. Il y a quelque chose de bizarre. Et là, en l'occurrence, ces fameux démons qui les attaquent font peur, hein, clairement. Mais au niveau du design, ressemble beaucoup à ces iconographies que l'on a des anges un peu bibliques, c'est-à-dire que des trucs qui ressemblent à rien avec des yeux partout. Donc il y a ce côté ange, on se dit tiens, c'est des démons ou est-ce que c'est pas d'autres anges mais différents. Et donc cette jeune fille va déclencher un pouvoir en elle qui est assez puissant. Et elle s'en souvient pas. Et les autres disaient, oula, mais elle est chelou, cette petite, là, on va peut-être la surveiller. Et donc, au sein du tome 1, des années plus tard, elle aura grandi et va donc essayer de passer le concours pour faire partie d'une sorte d'académie pour être sélectionnée parmi les meilleurs anges. J'en dis pas plus, puisqu'après, c'est du spoil. Voilà, donc c'est un manga qui a un vernis good vibe, mais qui cache quelque chose de sombre derrière. Bref, tous ceux qui ont aimé l'Atelier des Sorciers et qui aiment les anges, let's go.
Ouais. Ce que je vois, effectivement, sur cette pas de graphique notamment, je t'ai vu feuilleter un petit peu le livre et effectivement on a l'impression que sur l'ancrage il y a effectivement une énorme influence Atelier des Sorciers, ça se sent tout de suite, j'ai l'impression. Donc pas d'ordinateur, j'ai l'impression, en tout cas
non, ça a l'air d'être vraiment à l'ancienne, mais avec un graphisme quand même très très moderne.
Ouais, vraiment. Kingdom of Quartz, c'est donc ta première proposition, Gaël. La deuxième donc, qui m'a l'air d'être d'un tout autre style, No Name.
Oui, exactement. No Name, donc un manga aux éditions Kurokawa. Il est en 2 tomes terminés. Les 2 tomes sont sortis d'un coup. Pourquoi avoir sélectionné ce titre ? Alors déjà parce que un titre en peu de volume, c'est cool. Et surtout, assez original dans le propos. L'histoire, ça se passe dans un monde, on va dire, entre le contemporain et le cyberpunk. Un monde un peu dystopique où en fait il y a une sorte de pouvoir parmi les gens, d'où le titre No Name. En gros, l'histoire commence en fait avec un couple qui va à l'hôpital parce que la femme est enceinte et va accoucher, et on arrive comme ça d'emblée et on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'en fait la femme, avant de quitter son mari parce qu'elle va au bloc opératoire, dit tu l'appelles prénom, ne laisse pas les gens choisir le prénom. Et là tu fais normal. Sauf que là, on voit des espèces d'agents un peu type FBI gouvernementaux qui vont voir le mari, font « Ouais, bonjour monsieur, votre fils ou votre fille, je sais plus, s'appellera ainsi. » Il fait « Non, mais ma femme voulait pas. » »« Non, non, vous avez pas le choix, c'est ainsi. » Et ça se coupe comme ça, pouf, on suit ensuite l'aventure donc des deux protagonistes. Donc on se dit « Ouais, c'est où est-ce que cela va en venir ?» Et en fait, très vite, on va découvrir que dans ce monde, dans cette histoire, dans ce manga, ton nom a un pouvoir. Par exemple, on va suivre l'aventure donc de deux personnes, Ralph et j'ai oublié le nom de la demoiselle, mais ça veut dire ours dans une langue, parce qu'elle va croiser d'autres personnes qui vont s'appeler par exemple Arthur, qui est lié à l'ours, ou à d'autres prénoms dans différentes langues. Et en fait, ces noms vont vous donner un pouvoir lié à votre nom. Par exemple, celle donc qui a un prénom en ours, c'est une sorte de lycanthrope, elle va se transformer en femme ours. Lui, Ralph, c'est lié au loup. Alors lui, il ne se transforme pas au loup. Par contre, il peut les invoquer, un peu comme des familiers. Puis alors des loups, genre le petit chiot, hein, le loup, quoi. Il va avoir une sorte de maître qui, lui aussi, a un nom lié au loup et qui manipule des loups. D'autres personnes vont avoir un nom qui permet de manipuler les gens. D'autres vont avoir des noms liés à l'eau et ainsi de suite. Et ces deux personnes font partie d'un organisme gouvernemental qui contrôle justement les gens avec leur prénom et surtout qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec.
Donc les pouvoirs sont tous en lien avec des animaux, pas forcément de transformation, mais tous en lien quand même avec des animaux ou pas que ?
Pas forcément que aux animaux. D'ailleurs, l'une des premières histoires, c'est sur quelqu'un qui est une sorte d'homme puissant, dominateur, qui justement a le pouvoir d'influer les gens. Mais pas influer comme un influenceur, influer genre va voir là-bas si j'y suis, tu vas aller voir là-bas si tu y es.
Oui, le pouvoir de persuasion un peu dans Star Wars, quoi.
Exactement, un peu comme la Force, effectivement. Et donc, va y avoir donc des crimes, des choses, des personnes qu'on va retrouver aussi sans nom, parce que certains quittent leur nom pour ne pas en avoir et ne pas être embêtés.
Ils deviennent des marginaux, du coup ?
Exactement, voire même dans ce cas-là, des cadavres, puisqu'on va enquêter sur ces personnes, sachant qu'ils ont tous en commun des signes distinctifs sur leur corps, comme des tatouages ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on va en apprendre un peu plus.
No Name, donc la deuxième proposition du Miskatonic Shop. Merci à toi, Gaël, toujours pour ces belles propositions, comme d'habitude. Et bon courage pour la suite. Voilà, on te retrouve en tout cas le mois prochain.
Avec plaisir, à très bientôt.
Effectivement, donc les deux propositions à gagner grâce au Miskatonic Shop. Pour cela, il suffit tout simplement de nous contacter. Si vous voulez nous appeler dès maintenant, n'hésitez pas donc tenter effectivement votre chance. Vous pouvez nous appeler au numéro suivant si vous avez de quoi noter. 02 38 69 17 42 et on postera sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook une publication à partir de lundi pour pouvoir faire un tirage au sort afin de remporter ces deux mangas. Voilà. Dans l'équipe, vous avez pu un petit peu regarder ce qui était proposé. Il y a des choses qui vous ont attiré l'attention.
Kingdom of Quartz, le design est vraiment assez exceptionnel. Ouais. Hein.
Graphiquement, je suis d'accord. Graphiquement, c'est vraiment joli.
Ouais. Il y en a qui ont lu l'Atelier des Sorciers parmi vous ou pas encore ?
Non.
Foncez, si vous aimez le style, vraiment foncez voir l'Atelier des Sorciers aussi, c'est vraiment magistral comme style, d'autant plus que là il y a des versions de luxe qui ont sorti maintenant, donc plus grandes, où on peut davantage profiter encore de la patte graphique de la mangaka, mais effectivement clairement il y a cette vibe l'Atelier des Sorciers dans le graphisme qui est assez incroyable, je trouve, à l'ancienne comme il expliquait, ancrage à l'ancienne sans tablette graphique pour le coup, et quand ça se marie avec un style bien défini et construit, ça pète un peu aux mirettes, je trouve. Steven,
j'aime bien. Il y a No Name aussi, j'aime bien le concept.
Le concept, en fait, ouais, intéressant.
Le truc avec les noms.
Et il me semble que c'est une série courte. Hein,
ouais,
donc,
il a dit deux tomes.
Ouais, c'est donc, ça. Donc voilà, on peut s'y plonger comme ça dans cette histoire et la finir assez rapidement sans avoir peur de se plonger dans un truc qu'on pourrait peut-être ne pas finir par manque de temps. Voilà,
comme One Piece, tu veux dire.
Comme One Piece, par exemple.
Non, personne ne critique One Piece ici.
Non, moi je me permettrai pas.
Non, mais même des mangas à 20 tomes ou à 30 tomes, par exemple. Des fois, c'est un petit peu quand on commence à manquer de temps.
Et d'argent
aussi, d'argent, surtout. Bah, allez voir les amis de l'Otaku Café aussi. Hein. Là, vous pouvez les lire sans acheter les mangas. Bon, par contre, vous allez payer des consommations.
Des consommations.
Mais bon, après, on
soutient les commerces locaux.
Bien. Ouais, voilà, et puis on se met bien aussi en même temps. Et voilà, donc ouais, soutenez vos commerces locaux, effectivement, allez à l'Otaku Café et allez au Miskatonic Shop, effectivement. D'autant qu'en plus, ils en ont bien besoin. J'en discutais aussi avec Gaël un petit peu hors antenne. Actuellement, la conjoncture pour les boutiques est pas géniale. Pour toutes les boutiques de mangas, ouais, actuellement. Ouais. En fait, en gros, ce qu'il me disait, c'est que actuellement, il manque un peu d'une locomotive au niveau shonen, telle que Naruto, par exemple, a pu l'être à un moment donné, comme My Hero Academia, par exemple, ou autre. Bah, actuellement, il y a des bons shonen qui sortent, comme Gachakuta, par exemple, ou Phantom Busters.
Dan, j'imagine aussi.
C'est ça, ouais. Mais apparemment, il manque un peu d'une grande locomotive, et il y a eu quelques fermetures en France de boutiques. La conjoncture, là, depuis le début d'année, est pas génial.
My Hero Academia est fini, JJK est fini. Enfin, il y a que One Piece aujourd'hui. Je pense qu'il tient la baraque.
Ouais, mais ça. Bon, un nouveau tome sort quoi tous les 3 mois.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc arrêtez de commander sur Amazon. Là, allez voir vos commerces locaux, vos vendeurs et vendeuses de manga et allez les soutenir, s'il vous plaît. Vraiment. Allez, eh bien, on enchaîne ensuite avec notre deuxième thématique après cette petite virgule.
le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club.
Et alors du coup, on va parler tout à l'heure de ces potentiel pompe à fric ou œuvre artistique, voilà, on tranchera le débat. Mais en attendant, voilà, tu voulais justement nous faire un peu une introduction, Arthur, sur le phénomène de transmédia, ouais, notamment au niveau de l'animation japonaise et du manga. Ouais.
Ouais, parler d'un, faire un petit cours sur le transmédia.
Eh bien, allez-y, monsieur le professeur, hein, je vous en prie.
Donc, alors, le transmédia, pour ce qui concerne la Japanimation, parce qu'on va surtout parler de ça, on peut parler de ce que Mark Steinberg, l'américain, appelle média mix, entre gros guillemets. Il s'agit de l'exploitation d'une licence en général sur divers médias. Donc pour les mangas, ça va être le manga papier, mais ça peut être l'animé, ça peut être des produits dérivés. Donc des jouets, des jeux vidéo, des films, des cartes, et tout ça tiré donc d'un manga et d'un animé. Cependant, je ferai une nuance, parce que le nom de la chronique c'est transmédia, mais en réalité, en fouillant un peu, en fait il y a une nuance. On ne peut pas vraiment parler de transmédia pour les mangas et animés, on va plutôt parler de crossmédia. En fait, le transmédia, c'est la narration, en tout cas, on parle de narration transmédia. C'est un concept créé par Henry Jenkins en 2003. Il s'agit de créer un univers narratif qui va s'unifier globalement sur différents médias.
Donc, comme l'univers étendu de Star Wars, par exemple.
Star Wars, moi j'allais prendre l'exemple de Marvel, par exemple, cinéma, en tout cas. Donc on a les films qui ont commencé avec Iron Man, mais maintenant il y a des séries, il y a des comics aussi qui sont adaptés, des dessins animés, etc. Star Wars, effectivement, ça fonctionne avec les films, les séries, comics, les romans qui sont canons. Ça fonctionne peut-être même mieux que Marvel, d'ailleurs.
Bah, ça fonctionne mieux, même si tu avais un ancien univers étendu qui a été remplacé par le nouvel univers étendu de Disney, qui a fait table rase de cet ancien univers qu'on appelait aujourd'hui Legends. Ouais. Mais c'est effectivement plus lisible, peut-être, parce que en fait, le problème de DC et de Marvel, c'est qu'ils ont des multivers.
Oui.
Donc, alors là, pour le coup, des fois, ça va pas être transmédia parce que voilà, des multivers vont pas forcément s'accoler les uns aux autres. Enfin, ouais, c'est un peu
compliqué. Et puis après, Marvel, on parle de. Essentiellement c'est les comics, le multivers, mais du coup on peut pas vraiment parler de transmédia parce que c'est vraiment comics. Moi je parlais des films qui sont en film, série, dessin animé, etc.
Parce que là on avait des
C'est le MCU dont tu parles.
Oui, le MCU.
Mais du coup en fait la particularité c'est cross-média, c'est en fait sur différents médias on va avoir des univers distincts, alors que transmédia c'est qu'il y a une continuité entre tous les
médias. Justement, le cross-média, j'allais y venir, c'est pas forcément narratif. En fait on parle plutôt d'un média principal qui renvoie à d'autres médias complémentaires. Là, la Japanimation, je vais y arriver, rentre du coup dans cette case, parce que alors, soit on a un animé principal, soit un manga qui vient donc d'un autre produit principal et qui va raconter littéralement la même histoire en fait.
Alors je sais pas du tout, j'ai pas lu ta chronique et je sais pas si tu vas y venir, je vais peut-être te couper l'herbe sous le pied. Pokémon en fait clairement partie.
Pokémon en fait partie, et littéralement tous les animés dont on va parler en font partie.
Et bien on te laisse ça.
Voilà. Et donc on parle d'un animé par exemple qui vient d'un manga qui est lui l'objet principal. L'animé c'est juste une adaptation, parfois éventuellement complémentaire avec 2-3 informations en plus, mais globalement ça va être de l'animation case par case, etc. On peut aussi parler des figurines et des spin-offs qui peuvent éventuellement rentrer dans cette catégorie, c'est assez compliqué, il y a un flou sur cette partie-là. Après les figurines, il n'y a pas vraiment d'histoire qui est racontée, c'est juste achète ma figurine 40 balles de mon Luffy pour parler de One Piece.
Mais après, tu as les jeux vidéo où des fois tu as des histoires narratives qui sont pas dans, dans le manga et qui sont ajoutées.
Oui, mais du coup, là, on va peut-être plus parler de transmédia en fait. Ça fait partie de ces points un peu flous en fait où on se veut une adaptation et à la fois, en fait, pas vraiment une adaptation, on rajoute un petit truc en plus.
Faut parler plus fort de ton micro par contre, Steven là. Ouais. C'était il marmonne exprès, là. Dans sa barbe là.
Non, c'était fait exprès, je voyais pas Arthur, j'avais un pied entre nous.
C'est vrai qu'on a les pieds de micro un peu partout.
Du coup, je le voyais pas.
Ok.
Mais donc, on allait y venir. La dernière catégorie, c'est les animés commerciaux, ce dont on va parler effectivement aujourd'hui, qui sont des purs produits des studios avec un seul but, faire la promotion d'une œuvre principale. Alors. Quand on parle d'animés commerciaux, ça veut dire que l'œuvre principale n'est pas un animé, forcément. Donc ça peut être un jouet, un jeu vidéo. Moi, le meilleur exemple que j'allais prendre, c'est Level 5, le studio japonais de jeux vidéo, essentiellement.
Avec un ballon rond, c'est ça ?
Avec un ballon rond, Inazuma Eleven, mais je prendrais aussi Yo-Kai Watch, Professor Layton aussi, qui sont donc les trois Madeleine de Proust du studio, qui ont été adaptés en fait, du jeu vidéo en animé et en manga, et qui racontent absolument la même histoire, quasiment, ou alors, pareil, avec 2-3 modifications, mais avec un seul but, vendre le plus possible de jeux vidéo, ce qui fonctionne à peu près, parce que c'était la stratégie de Level 5 de faire du cross-média.
Ok, et bah, magnifique, très bien, voilà. Très belle introduction.
J'espère que c'était clair.
Effectivement, oui, c'était très clair. Et ouais, effectivement, pour oui, vas-y, Victor, oui.
Non, non, tu voulais juste dire ouais.
Non, ouais. Non, mais oui, Pokémon. Effectivement, moi, je pensais à ça aussi parce que, bah, en exemple de cross média pour le coup, on y viendra tout à l'heure. Mais par exemple, quand on regarde l'animé, le personnage de Sacha n'existe pas en fait
dans le jeu.
Non, il est une inspiration effectivement de Red, le protagoniste que nous incarnons dans la version rouge, bleu et jaune, même si la version jaune est beaucoup plus inspirée de l'animé puisque on a le Pikachu, on a la Team Rocket, Jesse James, etc.
Ouais, après il y a une autre adaptation animée qui vraiment reprend l'histoire de Red.
Mais Origins,
ça, c'est assez compliqué quand même de faire une adaptation parce que Red parle pas dans le jeu en fait. Et puis c'est ton aventure quoi, donc t'as des gens, ils vont aller capturer 30 Pikachu dans la forêt de Jade, et t'en as d'autres, ils vont tracer, ils vont aller capturer un racaillou, je sais pas.
Ouais, c'est ça. Bon bah merci en tout cas Victor pour cette petite
Introduction.
Arthur. Arthur.
C'est vendredi fin de semaine.
Ouais,
c'est
j'en ai marre. Bientôt les vacances. Merci en tout cas Arthur pour cette petite introduction assez intéressante, même très très intéressante. On va venir à notre table ronde avant une petite pause musicale. On va commencer avec une proposition musicale de l'ami DJ Tofu. Vous en avez l'habitude. Beaucoup de city pop notamment des années 60. 70-80 principalement, et ce sera un titre de Miki Hirayama, donc une grande chanteuse japonaise star des années 70 au pays du soleil levant. Son titre s'appelle Tsukikage no Nagisa. C'est tout de suite sur le 88.3 FM Radio Campus Orléans, et on revient ensuite pour continuer cette émission Kawaii Campus Club.
You.
Il y a des petites vibes reggae presque sur ce morceau de Miki Hirayama à l'instant sur Radio Campus Orléans, donc Tsukikage no Nagisa à l'instant, donc une nouvelle proposition de l'ami DJ Tofu.
Le Kawaii Campus Club, tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h sur Radio Campus Orléans.
Et c'est une bonne façon de se mettre en jambes, de s'échauffer, c'était bien, on était dans une bonne ambiance. Maintenant, bon, ça va un petit peu débattre, ou voilà, j'ai choisi volontairement le titre de l'émission pour être très provocant et très clivant, que les fans de Beyblade, de Pokémon et de Yu-Gi-Oh! Me pardonnent en avance, surtout que moi je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Donc je vais défendre la vision artistique par exemple de ce manga. Donc Beyblade, Pokémon, Yu-Gi-Oh! 3 petits points, pompe à fric ou œuvre artistique. Voilà comment est-ce qu'on va se lancer.
Oui, donc, quelle question épineuse.
Ouais, et alors, je vais me lancer avec ça.
Achète ma mère. Achète ma mère. Ma mère.
Ça, c'est la bonne. Voilà, donc ça, vous avez reconnu le joueur du grenier dans une de ses vidéos dans lesquelles il parlait de Beyblade notamment. Beyblade. Voilà, et dans lesquelles il était très critique de ce côté consumériste de cet animé que nous avons vu passer pour les plus vieux d'entre nous sur France 3 lorsqu'il est apparu. Parlons. Commençons par parler peut-être un petit peu de Beyblade. Comment est-ce qu'on l'a un peu...
Alors, c'est des gens qui font des tournois de toupies et c'est tout ce que j'ai à dire.
Pompe à fric, hein, on va pas se mentir. Arthur,
alors, toi, t'as acheté une toupie, toi, quand t'étais plus jeune.
Non, mais je sais pas quand je me suis retrouvé avec une toupie Beyblade. Moi,
mais moi aussi, j'en ai acheté une.
Ah, mais moi, je l'ai pas acheté.
Mais j'ai jamais su m'en servir.
Mais je l'ai pas acheté. Mais je sais que j'en avais une, mais je sais pas d'où elle sortait.
Mes petits-neveux, ils sont fans de Beyblade. Ils adorent. Ils font des combats de toupies dans leurs espèces.
Dans leur stade.
Dans leur stade.
Mais tu vois, ça, c'est un bon indicateur qui dit pompe à fric. Pourquoi ? Parce que les gosses sont fans et ils poussent leurs parents à acheter. Et donc, clairement, tu vois, ça montre que ce sont des pompes à fric.
Et je fais partie de ces enfants harceler leurs parents pour acheter des toupies.
Bon, j'ai commencé par Beyblade, mais on va y revenir vraiment sur Beyblade. Mais effectivement, il y avait peut-être la question un peu d'introduction que j'aurais dû faire. Quand on était jeune, bon, on a quand même tous un petit peu plus ou moins taxé nos parents sur des choses. Vous, c'était quoi, justement ? C'était quel manga ou quel animé ? Ça peut même être d'ailleurs en dehors de l'animation japonaise ou du manga, puisque par exemple il y avait les Transformers aussi ou d'autres
Tortue
jouets.
Ninja,
voilà. Tortue Ninja, t'étais très Tortue Ninja.
Moi j'ai les Power Rangers et Tortue Ninja.
Moi c'était plutôt Batman.
Ok, ouais.
Ah,
mais
oui,
là
Batman
on parle
aussi.
Ok, ouais.
Ouais. Non, mais Batman, les films, les derniers films là avec la Batmobile multicolore, c'était clairement pour vendre des jouets.
Avec George Clooney, tu veux dire
Ouais, avec Mr. Freeze qui était joué par Arnold Schwarzenegger.
Ça,
c'était fait pour vendre des jouets et j'ai acheté la Batmobile.
Enfin, Freeze, ouais. la fameuse comment dire, blague.
Freeze, t'es juré.
Allez voir le joueur du grenier aussi là-dessus.
Mais non, mais oui, après, voilà. Moi, en tant que gamin, j'ai eu des cartes Pokémon.
Ah, voilà,
moi aussi.
J'ai eu Pokémon rouge, j'ai eu Pokémon jaune, j'ai eu Pokémon cristal. Je sais même plus. Je sais que j'ai eu plein de versions de Pokémon sur Game Boy.
As-tu fait du chantage à tes parents pour avoir
Non, parce que sinon c'était compliqué pour moi. Mais
alors chantage, bon, j'exagère peut-être, mais par exemple moi dans mon cas, j'ai essayé de prendre ma maman par les sentiments, qu'elle m'en excuse aujourd'hui. Le pire élève de ma classe avait une Game Boy Color. Mais vraiment, c'était l'élève qui avait les pires notes possibles, qui faisait rien du tout.
Du coup, t'as demandé une Game Boy Advance parce que c'était mieux, c'est ça ?
Je faisais partie des meilleurs élèves de la classe à ce moment-là. J'étais dans le top 3 de la classe. Et donc, je lui ai dit, c'est quand même pas très juste quoi, que je n'ai pas de Game Boy alors que lui, il en a une.
Et ce gros con, il en a une.
Et j'ai réussi à l'avoir par les sentiments.
Et depuis, tu as raté tes études, lamentablement.
C'est exactement ça, tout à fait. Alors, j'avais prévu d'être un grand chercheur. Aujourd'hui, effectivement, c'était pas le cas.
Moi, c'était sur les cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. J'avoue, Yu-Gi-Oh! J'ai dans les tabacs, je me souviens, parce que du coup, ma mère était fumeuse. Donc, quand on a passé au tabac, j'incitais un petit peu. J'étais là, maman, un petit deck Pokémon Yu-Gi-Oh! Ce serait pas mal quand même.
Alors, oui, non, t'inquiète, je mets un petit tapis musical Yu-Gi-Oh! Justement.
Mais moi, je me rappelle, parce que nous, moi, Pokémon, c'était en 97, 98, c'est ça ?
Ouais, 98, ouais.
Et il y a eu les cartes vraiment juste après, en fait, c'est sorti dans la foulée.
Ça a dû débarquer quand j'étais en CE1 ou CE2.
On était à l'école primaire, et moi, je me rappelle qu'il y a eu une interdiction dans notre établissement de ramener des cartes Pokémon.
Pareil,
parce qu'il y avait des vols, il y avait des raquettes, il y avait des des échanges, des trucs.
Ça existe toujours aujourd'hui.
Oui, ouais. Ouais, ouais.
Pour avoir travaillé en centre, c'est en centre de loisirs, c'est. Ça dépense.
Oui.
Non, moi j'avais un jeu de société Pokémon que je ramenais à l'école pendant en fin de voilà.
Comme moi, je ramène mon jeu Captain Tsubasa.
Exactement. Moi, c'était Pokémon. Et oui, donc oui, j'ai été. C'est pour ça. Pour moi, tout ça, ce sont des animés Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh. C'est des animés c'est fucking commerciaux, en fait.
Ah, ça vise les gamins, oui. Ça vise vraiment les enfants pour qu'ils aillent taxer l'argent de leurs parents. Après, cela dit, Pokémon, le jeu de cartes, si je ne m'abuse, il s'est jamais autant bien porté qu'aujourd'hui, il me semble.
Ah ouais. Oui. Y a
des cartes, et ça, c'est grâce aux influenceurs, surtout.
Tout à fait.
Il y a des reventes de cartes, des fois, aux enchères, tu vois, c'est un truc.
Ah, le fameux Dracaufeu qu'on voulait tous avoir dans la cour de récréation. Le Dracaufeu qui avait une attaque danse-flamme à 100 et qui avait 120 PV. À l'époque, c'était juste énorme, alors que maintenant, dans les nouvelles cartes Pokémon, c'est la norme. J'adore ça.
Mais maintenant, c'est impossible d'en trouver des cartes. Moi, par curiosité, le week-end dernier, j'ai voulu aller voir s'il y avait des cartes. Avec un copain, on voulait s'en acheter. Et puis, il n'y avait rien, quoi.
Ouais.
Il est encore victime de son enfance.
Ouais, non, mais c'était un peu parallèle nostalgique. Parce que
c'était pour le Kawaii Campus Club.
Oui, voilà, c'était une enquête un peu, tu vois.
Et vous avez compris les règles de ce jeu? Moi, je les ai comprises personnellement.
Pas du tout.
Moi, je les ai comprises personnellement grâce à un jeu sur Game Boy Color qui était sorti. C'était Pokémon Trading Card Game. Et il était vachement bien
Attends,
ce
ils
jeu.
Ils ont vraiment fait un jeu Pokémon sur Game Boy Color. Carte Pokémon cartes, inspiré elle-même.
Il n'y avait pas encore de Minecraft.
Ça, c'est vraiment le jeu commercial par excellence.
Dans le jeu, en fait, tu incarnais un joueur de cartes qui allait récupérer 8 médailles comme les 8 badges, en fait. Donc t'avais pas un monde ouvert comme tu pouvais le connaître dans les aventures Pokémon, mais tu allais en fait de zone en zone, t'allais affronter des champions donc pour récupérer les médailles, et à la fin tu allais affronter une espèce de conseil des 4 qui avait des cartes légendaires qui n'existaient même pas dans le vrai jeu, en fait, des cartes très spéciales, et ton but c'était de les battre et de les récupérer, voilà.
Tu vois, c'était
génial ce jeu.
Oui, mais c'est typiquement commercial, c'est comme les gens qui se sont dit, venez, on fait un jeu vidéo Mortal Kombat inspiré du film Mortal Kombat, lui-même tiré du film du jeu vidéo Mortal Kombat. Tu vois, il y a un moment, faut arrêter dans le marketing. Et ça, typiquement,
je suis étonné qu'il n'y ait pas. Enfin, après, peut-être que ça existe et que je connais pas, mais un jeu vidéo un peu sur le Mother Stone, en fait, qui pourrait exister pour les jeux Pokémon.
Oh, si, il y a Duel Links, je crois, qui est sorti maintenant. Enfin, il y a deux propositions.
Ouais,
il y avait
compliqué.
Une proposition sur smartphone et une proposition sur les consoles de jeux qui sont sorties récemment et qui reprennent justement le jeu tel qu'il est, en fait.
Et avec des microtransactions.
En fait, c'est pas des microtransactions, c'est en fait, t'achètes des cartes en vrai, et t'as toujours le petit QR code, tu le scans et bam, ça arrive sur ton application, et là tu peux faire des combats. Et du coup, c'est littéralement un pay to win, en fait.
Tu n'en es pas propriétaire, et le jour où ils fermeront tous les serveurs, t'auras perdu toutes les cartes que t'auras achetées. Voilà.
Ouais, voilà, là ça c'est un intérêt vraiment purement commercial, en fait.
D'accord.
Et je suis pas sûr que ça marche énormément, je me demande si ça a pas fermé d'ailleurs.
Ouais. En tout cas, non, le jeu c'est. Alors je sais plus.
Ils en ont ressorti un il y a genre 1 ou 2 ans, mais c'est vraiment de la collection, à part s'ils ont rajouté les combats peut-être,
Alors ça c'est sur Pokémon, effectivement, je sais qu'il y a un jeu effectivement de collection, parce que je vois régulièrement à l'Otaku Café des drafts, enfin ils font des espèces de drafts, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ils viennent récupérer aussi des cartes, et là on est plutôt sur le jeu de collection, il me semble.
Commerce obscur.
Ouais. mais il y a un jeu...
Sur des drafts la nuit, sur parking.
Mais le jeu de cartes...
C'est Master Duel pour Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est le dernier jeu qui est sorti, et pour le coup je crois qu'il fonctionne très bien, en fait.
Oui, Yu-Gi-Oh! Ça existe, moi je parlais de Pokémon.
Ouais, pour Pokémon,
oui. Oui, Yu-Gi-Oh! Ça existe, mais Yu-Gi-Oh! Il y en a même plusieurs, je crois.
Ah bah, je veux dire, le compétitif, de toute façon, il fonctionne du tonnerre aussi, c'est pareil. Donc, non, pour le coup, là, ça ne perd pas en popularité, ça gagne même, pour le coup, parce que les anciens joueurs, en fait, ont évolué, ont grandi. Alors même s'il y a une partie des joueurs, je trouve, dans Yu-Gi-Oh! Qui sont... un petit peu dégoûté, et moi ça en fait partie, c'est-à-dire que moi je trouve que le jeu a énormément en fait évolué, mais dans un sens en fait d'accélération, en fait ça fait que aujourd'hui tu fais un premier tour et t'as un board rempli de monstres.
Mais ça c'est le problème de tous les types de jeux de cartes comme ça, en fait. Hearthstone c'est la même chose. Quand tu regardais à l'époque un deck accélération par exemple, en fait ça a gagné au tour 8 ou 9, ce qui déjà était très rapide. Maintenant tu peux finir tour 4, quoi.
Ouais.
Bah oui. C'est tous les jeux vidéo, ça, maintenant. Ça a vachement accéléré, quoi.
Bah, de toute façon, je pense que c'est aussi le but de rendre les anciennes cartes plus ou moins obsolètes pour t'obliger à racheter en permanence des nouvelles cartes, etc.
Faut bien renouveler le truc. Hein.
Après, je connais pas, par exemple, comment ça se passe sur Beyblade, par exemple, mais j'imagine qu'au fur et à mesure, ils vont créer aussi des
toupies de plus en plus performantes.
Des toupies qui tournent pareil.
Des toupies que télécommandées, j'en sais rien.
Il y avait un truc, genre, c'était des pneus après.
Oui, les Bay Wheels.
Ouais, mais alors ça a jamais marché.
Arthur, toi qui es un expert, voilà, parle-nous un petit peu
de Beyblade. Alors voilà, ma Madeleine de Proust entre guillemets, j'ai jamais été le plus grand fan de l'histoire, mais j'en avais avec mon frère à l'époque. Globalement, nous à l'époque, c'était pas la série d'origine, parce que moi je suis né dans les années 2000, c'était les séries Metal Fusion. Metal, c'était des toupies qui tapaient vraiment, quoi. C'était du métal, donc quand ça tapait, quoi. Et c'était vraiment de fou, quoi. Si t'en avais, c'était incroyable. Alors, c'était interdit dans les écoles parce que forcément.
C'était dangereux.
Et après, la vente, j'imagine aussi.
Puis, non.
Ça veut dire qu'on est arrivé vraiment au point, comme dans les animés, où ils se servent de leur toupie comme arme.
Oui, c'était vraiment ça. Hein.
J'ai la séquence.
Attention, j'ai une toupie. Non, et puis il y a eu l'animé qui suit une histoire assez sérieuse, entre guillemets. T'as vraiment un arc narratif avec Ryuma. Pour ceux qui voient, nos auditeurs qui voient pas,
ça me dit rien du tout.
Un gars littéralement fou avec sa toupie El Drago que tout le monde voulait. Spoiler alert, on l'avait avec mon frère. Et
beau gosse.
Carrément, pour dire qu'on était fan quand même, on a fait un tournoi à Beyblade.
Ok.
Quelque part, pas très loin d'ici, il y avait une matinée, c'était dans un parc de jeux, ils avaient dit tournoi Beyblade.
Le tournoi à Beyblade de Main-sur-Loire ou de Jargeau.
Ouais, là je sais plus.
Je suis Loïc, champion de Beyblade.
Je crois que c'était
à Poitou-Charentes.
Mais je crois que c'était genre à Saint-Jean-de-la-Ruelle, un truc du genre. Et c'était blindé de monde, hein.
Ah la vache, ouais.
Et on y avait été, du coup, moi, mon frère, un pote et notre cousin. Mon cousin, il s'est fait éliminer premier tour parce qu'il était tout petit, quoi. Après, moi, je me suis fait éliminer au tour d'après. Après, j'ai notre pote qui s'est fait éliminer au tour d'après. Et j'ai mon frère qui avait la toupie El Drago qui, lui, a été, genre, je crois, quart de finale, un truc du genre.
C'est quoi les règles du... Beyblade.
T'envoies ta toupie.
Et elle tourne.
Oui,
mais elle se frappe et la première toupie en fait qui a arrêté de tourner.
Voilà, ou qui explose. Si ça explose, c'est mieux. Et de toute façon, la règle principale, c'est avant de tirer sa toupie, c'est 3, 2, 1, Beyblade, go, je sais plus exactement.
Hyper vitesse.
Hyper vitesse, voilà, c'est ça.
Ouais, à l'époque. Je me souviens parce que j'avais regardé la première saison pour le coup de l'animé. Et alors, justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est. Qu'est-ce que ça raconte, cet animé? Est-ce qu'il y a des thématiques quand même importantes? Parce que c'est ça aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est juste la pompe à fric? Ou est-ce qu'il y a quand même dans cet animé des choses qui ont pu être racontées et qui sont intéressantes?
Alors moi, pour avoir essentiellement regardé Beyblade, la saga Metal, donc je crois il y a 3 ou 4 saisons, t'as quand même quelques thématiques. Alors essentiellement, c'est commercial. C'est on va faire un tournoi et on va se taper dessus avec nos toupies. Mais t'as 2-3 thématiques sur la paternité. C'est vraiment shonen d'ailleurs, ouais. Parce que le personnage principal, Jinga, a vraiment une rivalité avec un autre personnage, qui j'ai oublié son nom évidemment, Kyo, je crois, un truc du genre, qui est le meilleur personnage de la série d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave. Et ouais, t'as une rivalité, t'as un aspect shonen, il se remet en question, il va s'entraîner et tout. Après, il y a eu les suites. Alors, il y a eu la saga là où c'est des rooms, mais bon, ça, c'est pas grave, quand on oublie, ça n'a jamais existé.
Écoute, là tu me parles presque chinois là. Hein.
Voilà. Et après il y a eu, alors je pense que j'ai loupé 2-3 saisons parce que pendant longtemps j'ai pas regardé et j'ai vu il y a pas très très longtemps qu'il y avait la, c'est une saga maintenant d'ailleurs, c'est Beyblade Burst, un truc du genre. Mais en fait j'ai l'impression qu'à chaque saison ça change de personnage. Donc je sais pas trop s'il y a une vraie continuité en fait, s'il y a une vraie histoire quoi. Ouais.
Mais quand tu me parlais en tout cas des personnages, c'est l'utilisation aussi souvent du shonen Neketsu pour utiliser un tournoi pour faire un peu de développement de personnages aussi ou raconter des histoires au travers de certains personnages.
Oui, après c'est
un, non mais c'est un format très commun quoi.
Mais en fait c'est pour ça que je trouve que ce sont des animés très commerciaux parce que ça reprend ce qui se vend le mieux, les shonen. Tu vois, ça reprend les codes du shonen et ça les applique à des Pokémon. Des cartes Yu-Gi-Oh!
Ça s'applique à un public enfant.
T'imagines un Beyblade Seinen?
Je recommence. Des cartes Yu-Gi-Oh! Et des toupies, tu vois. C'est pour ça que je me suis tourné en disant Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai pas envie que.
J'ai vu Thomas sortir un fusil.
non, pas du tout. Alors là, pour le coup, je suis totalement d'accord sur le côté commercial.
Non, mais voilà. Du coup, c'est pour ça que moi, je considère que ce sont des animés commerciaux. Après, ce sont pas de mauvais animés, forcément. Beyblade, c'est un mauvais animé, hein. Mais
je pense que ça dépend des saisons.
Balle perdue. Balle perdue.
Je défendrai mon protégé.
Mais Yu-Gi-Oh, moi j'ai regardé. Je trouvais que c'était un super animé. En plus, ça se passait avec l'Égypte et tout. Je trouvais ça très stylé. Et Pokémon, bah pareil, j'ai regardé au début. Mais bon, après j'ai vu que ça continuait et que ça ne changeait pas. Donc finalement, t'en as vu un arc que tu les as tous vus, quoi. Mais voilà, tu vois, on peut aimer ces trucs-là, même si c'est pour vendre des
trucs. Attends, si, ça change. Au bout d'un moment, ils jouent sur des motos quand même.
Non, j'aurais dû la prendre, cette séquence aussi du joueur du grenier. Il est où, Yugi? Il est pas là, mais maintenant on fait des duels sur les motos. Voilà. Et on est diffusé sur NT1. Pardon? Non, c'est pas possible.
C'est littéralement comme Beyblade avec les roues. Hein, c'est...
Ouais, mais vraiment.
Non, mais par contre, ouais, voilà, je vais revenir sur Yu-Gi-Oh! Et donc je vais relancer mes tapis musicaux Yu-Gi-Oh! Quand même, voilà. Parce que en fait, moi, il y a une vraie différence, je trouve, dans Yu-Gi-Oh! Par rapport aux autres animés qu'on a cités. C'est que Yu-Gi-Oh! À l'origine, ça a démarré par un manga. C'est un manga, et c'est un manga qui ne parle pas de cartes au début. C'est le manga de Kazuki Takahashi, ça part en fait sur le jeu, en fait, sous toutes ses formes. Le jeu aussi mortel, voilà l'aspect donc vraiment mortel.
Tu joues
mortel.
Ton âme.
Ah oui, non, mais bah, même tu joues ta vie, hein, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que au premier tome, à un moment donné, Yugi est opposé à un condamné à mort, et à la fin du jeu, que je ne vous expliquerai pas parce que j'ai pas trop de temps, mais le mec finit par s'immoler. Donc en fait, Yugi est responsable de la mort d'un mec qui crève brûlé vivant, voilà.
Ah oui, mais c'est l'histoire du briquet qui pose,
ouais,
sur le...
Exactement,
ouais,
tout à fait.
Si, voilà. Si, je me rappelle.
Exactement. Donc non, il y a quand même des choses très très hardcore qui se passent, notamment dans les premiers tomes, mais même après, même quand on arrive dans le jeu de cartes, il fait quand même subir ce qu'il appelle le jeu de la sanction, c'est-à-dire le pouvoir de son puzzle du millénium de sanctionner une personne qui perd contre lui dans un jeu des ténèbres. Et la sanction, souvent, elle est pas très belle pour le perdant. Mais effectivement, ça a démarré par le jeu, par plein de jeux, et puis il se trouve qu'à un moment donné, le jeu de cartes s'est installé dans un chapitre. Il l'a oublié ensuite, il est passé à d'autres jeux, et puis après il est quand même revenu au jeu de cartes parce que peut-être que son éditeur lui a demandé de refaire un test un petit peu. Il y a eu un courrier des lecteurs, il me semble aussi, qui a dû faire remonter le fait que le jeu de cartes, les gens qui lisaient le Shonen Jump, ça leur plaisait plutôt. Et je pense qu'on a dû insister auprès de Kazuki Takahashi sur le fait de creuser le jeu de cartes parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et moi, ce que j'apprécie quand même dans le manga, c'est que Kazuki Takahashi, ok, il s'est peut-être tourné vers effectivement ce côté marketing, mais il en a pas oublié la proposition première quand même de son manga, qui était de raconter quand même une vraie histoire d'amitié vraiment entre les personnes, et aussi une histoire de développement vraiment personnel par le biais du petit Yugi et de son opposition, en tout cas de sa complémentarité, sa dualité avec l'âme du pharaon qui habite le puzzle du millénium, et cette transformation, ce changement, ce passage à l'âge adulte progressif, la prise de responsabilité, et à la fin justement ce départ déchirant par le duel final qui oppose les deux âmes de Yugi et du pharaon, et la défaite du pharaon à la toute fin du manga, qui signifie que Yugi n'a plus besoin de lui pour avancer et pour construire sa vie. Et il y a d'autres thématiques qui sont aussi évoquées par d'autres amis de Yugi. Je pense à Jonouchi, Joe, pour celles et ceux qui ont regardé l'anime, qui en fait, on le voit pas du tout dans l'anime, mais dans le manga, son père est un alcoolique notoire, un énorme alcoolique. Jonouchi est passé très près de la maison de correction parce qu'il fréquentait des bandes de voyous, il se battait.
C'est
et,
pas raconté ça dans l'anime ?
Très peu, très 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 peu vraiment, c'est pas du tout détaillé, et alors il n'y a pas du tout de présence de son père alcoolique pour le coup. Dans le manga c'est très raconté et c'est très évoqué, notamment dans un passage, dans un duel qu'il fait au royaume des duelistes contre un personnage qui s'appelle Bandiken. Et Bandiken en fait c'est la face opposée à Jonouchi, c'est un ancien joueur de duel de monstres qui a perdu contre Pegasus et qui est tombé dans l'alcoolisme, qui est tombé dans les paris, qui est tombé notamment dans des jeux de roulette russe où il a parié sa vie notamment. Et il y a cette analyse dans le manga qui fait que Jonouchi aurait pu dériver de la même façon que Bandiken s'il n'avait pas rencontré Yugi, notamment sur son chemin. Et il y a cette dualité entre les deux personnages, ce même goût du pari pour les deux aussi, parce que si on regarde le jeu de cartes de Jonouchi, il y a beaucoup de cartes autour du thème du pari, les lancers de dés notamment, le magicien du temps et plein d'autres cartes en fait qui font appel au jeu de hasard notamment. Donc Jonouchi, on voit que c'est un personnage qui est toujours très tenté par ce côté très parieur qui vient souvent de son père aussi, mais contrairement à Bandiken, il ne passe jamais du mauvais côté parce que il y a toujours ses amis qui sont à ses côtés pour le ramener à ce qu'il est de plus bon, sa sœur aussi notamment, pour qu'il se bat parce que sa sœur qui risque de devenir aveugle. Donc je trouve quand même que c'est une thématique très très intéressante aussi. Et puis il y a Anzu ou Théa, si vous connaissez, qui rêve de devenir danseuse professionnelle et qui rêve d'aller à Broadway
à New York. Et il y a pareil cette thématique aussi de la séparation, c'est-à-dire que pour vivre son rêve, bah, à un moment donné, elle va devoir quitter ses amis. Qu'elle adore pourtant, mais elle va devoir s'envoler aussi. Donc il y a toute cette thématique qui est aussi racontée dans pas mal de chapitres, cette séparation. Et Hanzo, elle est aussi justement un peu le catalyseur aussi de cette peine que traversent les amis de Yugi à l'idée de se séparer de Yami Yugi, l'âme du pharaon, qui va partir dans l'autre monde à la fin du manga. Je rentre pas davantage dans les détails, mais je trouve que ces thématiques, elles sont très 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 bien racontées.
Tu
dans
le défends bien.
J'ai un ordre.
Et après, voilà, il y a Konami qui est arrivé avec le jeu de cartes.
Mais il n'empêche que, voilà.
Mais lisez le manga, vraiment.
Je me souviens d'un jeu vidéo sur PS1, je t'en parlais hors antenne.
Forbidden
Memories. Et en fait, il fait pour avoir des cartes dans le jeu, il fallait acheter les cartes physiques pour avoir des numéros, pour pouvoir les rentrer. Bon, après, c'était inachetable. Hein. mais voilà, n'empêche qu'il y avait un système pour acheter le jeu vidéo, acheter les cartes. Ça, franchement, c'est pas une technique de marketeur.
Ouais. Non, mais je suis d'accord.
Non, mais après, au final, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est des animés, des mangas qui vous ont fait vibrer dans votre jeunesse. Écoutez, vous avez le droit de kiffer aussi, hein, de temps en temps. C'est pas grave si c'est commercial.
Mais oui.
Au final...
C'est très bien.
Le plus important, c'est pas l'aventure, hein, franchement. Et voilà, les euros, c'est pour vos parents, en fait.
C'est bien. J'aimerais presque conclure là-dessus, mais un petit mot quand même aussi sur Pokémon, quand même, qui nous a aussi, toutes et tous, presque rassemblés. Moi, je suis vraiment de cette génération aussi Pokémon qui est arrivée. Et alors, bon, toi, t'as un avis très tranché là-dessus, hein, Steven, sur le côté très commercial de Pokémon. Mais Victor et moi, on avait un avis un petit peu plus nuancé. Victor, peut-être, je te laisse peut-être nous dire un petit peu ce que tu en penses.
Hein. Ouais.
Sur les débuts notamment de Pokémon.
Oui, sur les débuts de Pokémon, moi ce que je trouvais en fait, c'est il y a eu de l'audace en fait quand même au début de Pokémon, dans la création du truc, dans le fait de proposer un RPG qui soit à la fois un RPG vraiment pur avec des stats, des trucs, des stratégies, des machins, etc. et tout, des systèmes élémentaires, etc. Et le côté aventure qui était proposé par le jeu, je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Franchement, en termes de RPG, mais vraiment, juste posez-vous la question, en termes de RPG pur sur la Game Boy, il n'y avait pas grand-chose. Hein.
Mais c'est révolutionnaire, Pokémon.
Aujourd'hui, les mécaniques, elles sont quand même extrêmement subtiles. Hein. La stratégie Yu-Gi-Oh, faut vraiment s'y pencher. C'est assez dingue, hein, quand on se rend compte des possibilités qu'offre ce jeu, surtout avec... aujourd'hui, ils ont plus de 900...
Yu-Gi-Oh, je crois. T'as dit Yu-Gi-Oh,
qui m'a perdu. Le vieux réflexe.
Pardon, Pokémon. Mais ouais, enfin, la myriade de possibilités qui est offerte par, justement, les stratégies, les objets,
t'as eu la Pokémon Academy, etc. et tout. Enfin, t'as eu plein de trucs.
Maintenant, Game Freak en a fait n'importe quoi.
Parce que maintenant, ça suit un rythme, quoi. C'est un empire.
Mais il y a ce côté artisanal de passionné que moi, effectivement, dans lequel je me retrouve quand même aussi. C'est-à-dire que, oui, ok, on est vraiment arrivé sur l'empire absolument, l'empire du mal, peut-être.
L'empire capitaliste. Qui sortent tous les ans, franchement, c'est une catastrophe.
Mais au départ, ça a démarré sur une idée, un concept de Satori Tajiri qui pensait aux insectes qu'il chassait quand il était gamin, quoi.
Il y a un super docu sur Pokémon sur Arte, je crois.
Ouais.
Allez le voir parce que ça raconte l'origine de Pokémon. Très sympa.
Il y a plein de super documentaires qu'on peut retrouver sur le sujet.
Ouais, tout à fait. Bon, on reste sur ton mot de la fin aussi, c'est que c'est pas grave si vous aimez ces animés ou ces mangas.
C'est une porte d'entrée, on va dire.
Quand on est enfant, vraiment. Ouais.
Moi, je reste sur mon chemin aussi. Yu-Gi-Oh, ne regardez pas l'animé censuré par 4Kids, qui est une censure d'une censure faite par les Japonais du manga. Lisez le manga, donnez la chance au manga, vraiment, je pense que vous allez être très très agréablement surpris. Merci à vous en tout cas pour ce débat. Il nous reste un peu plus de 10 minutes d'émission, le temps de se faire une petite pause musicale. Je ne suis pas neutre, j'ai choisi un opening de Yu-Gi-Oh, opening de la saison 4 et japonais, hein, pour le coup. Et qui s'appelle Warriors de Yuichi Ikuzawa. On revient dans 1 minute 30 pour le jeu de fin d'émission.
Yeah.
Et voilà, à l'instant, c'était l'opening 4 de Yu-Gi-Oh! Ah oui, ça change hein, de c'est l'heure du duel. Hein.
Oui, effectivement, ça n'a rien à voir.
Bah, ouais, voilà, voilà ce que les Américains nous ont enlevé lors de leur adaptation. C'est moche, c'est extrêmement moche. Allez, on termine cette émission avec le jeu du Game Master Steven.
Le manga et la pop culture japonaise, c'est sur Radio Campus Orléans, dans le Kawaii Campus Club.
Alors, vas-y, je t'en prie, Steven.
Ok, c'est parti. Alors, le nom du jeu, bon, je me suis pas trop cassé la tête, c'est le jeu des vrais noms. Mm-hmm. Ok. En fait, le concept, c'est simple. Je vais vous donner deux noms. Vous devez me dire si le manga existe, ou okay. si un des deux existe, ou si les deux existent, ou si les deux n'existent pas.
D'accord.
Ah, ok.
Ouais,
d'accord. C'est clair.
Donc, ok, l'un après l'autre, en fait, parce que c'est pas une course de rapidité là pour
non,
le coup.
Non,
ouais,
non,
c'est ça, ouais.
Et chacun, vous comptabilisez vos points, et au final, celui qui a le plus de points à la fin gagne.
Gagne, tout simplement.
Tout simplement.
Ça marche.
Ok, il gagne quoi?
Bah, le respect des auditeurs et auditrices.
C'est voilà, déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ok, allez, on commence avec un premier. Donc, premier nom. Ma fille a quitté le nid et est revenue en tant qu'aventurière de rang S. Deuxième proposition, c'est mon fils est resté à la maison et est devenu le plus fort des aventuriers. Alors, selon vous, le premier existe, le deuxième, aucun des deux ou les deux?
Moi, je dirais que le deuxième existe. Mmh.
Moi, ouais, je dirais aussi.
Le deuxième, ouais. Ouais.
Et c'est une mauvaise réponse. C'était le premier. My daughter let the nest and returned an S-rank adventurer.
Ah, t'es souhaité.
Franchement, ça va être compliqué. Donc voilà, donc c'est un manga, c'est un isekai. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'isekai.
Ah, punaise, ah, non, s'il te plaît. Là, non. Hey, tu le gardes pour la prochaine l'émission qu'on fera un jour.
Voilà, voilà. Bon, je vous pitch pas, mais en gros, il est sur Crunchyroll sous le nom de la Valkyrie aux cheveux de Jade.
Ok.
Ok. Deuxième question. Alors, première proposition, je veux manger ton pancréas. Deuxième proposition, je veux boire ton placenta.
Le premier.
Le premier.
Aucun des deux.
Et ben, c'est une bonne réponse pour Thomas ouais. et Arthur.
Ah merde.
C'est, je veux manger ton pancréas, on en fait ouais. un super film d'animation.
C'est un film, ouais, c'est ça. Donc voilà. Il était sur Netflix, je crois. Je sais pas
si ouais, je sais pas.
Alors, troisième. Réincarné en machine à laver, je deviens un grand aventurier. Deuxième proposition, réincarné en distributeur, j'erre maintenant dans les donjons. Le premier, le deuxième, les deux, aucun des deux.
Les deux. Moi, j'irai le premier.
Le deuxième.
Et c'est une bonne réponse pour Victor.
Ah. Ça peut nous aider à nous départager, ça fait un point chacun.
Partout, ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. Full Metal Panic. Et deuxième proposition, Full Metal Alchemist. Les deux, le premier, le deuxième.
Bah, Full Metal Alchemist.
Moi je dirais les deux.
Les deux.
Bah, moi je dirais juste Full Metal Alchemist.
C'est une bonne réponse pour Arthur et Thomas.
Ah, mais.
Ouais, ça j'en ai
Full Metal Panic ça existe ouais. Ils sont pas tapés en français.
Non, c'est Full
bah
Metal.
Ah non, parce qu'après tout, il y a bien Full nom. Metal Jacket aussi avant.
C'est en deux mots Full Metal.
D'accord.
C'est Full Metal Panic. Ouais. Avec un point d'exclamation.
Non, non. Ouais.
Mais que je n'ai pas vu, mais ce qui paraît qui est plutôt sympa. Mais qui est un peu vieux. Allez, la suite. Est-ce mal de draguer des filles dans un donjon?
Pardon, excuse-moi.
Tu vas nous emmener sur le terrain du hentai ou...
Et deuxième proposition, est-ce mal d'utiliser des filles comme bouclier?
Non, je suis sûr que le deuxième existe. C'est obligatoire.
Moi, je dirais que le premier existe.
Bah, le deuxième, les deux.
C'est Arthur qui a raison, le premier existe. Et c'est Dan Machi.
Ah bon? On n'a jamais utilisé comme bouclier des filles, ok, d'accord.
Voilà, concept de, voilà, pour des gens qui ont des idées.
Par contre, dans South Park, on utilise des noirs comme bouclier humain.
Oui.
Dans un film, dans le film d'animation South Park. On appelle ça Opération Planque-toi derrière les bronzés. C'est pas une blague, hein. c'est vraiment dans South Park. Dans le conflit entre les États-Unis et le Canada. Très révélateur d'ailleurs, parce que ça pourrait bien se produire un jour.
Ah, Canada.
C'est dingue, c'est n'importe quoi.
On est à combien de points là?
Ça fait 3 points pour Arthur, 2 points pour moi et 1 point pour Victor.
Ok.
Peut-être un deuxième jeu gagné de suite.
Ouais, peut-être. Alors, question suivante. Que fais-tu pour la fin du monde? Es-tu occupé? Nous sauveras-tu? Donc ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, que fais-tu pour le dernier épisode? Es-tu occupé? Nous le regardons ensemble.
Projet, moi j'ai
aucun. Ouais, je dirais aucun aussi.
Et bah, c'est Victor qui a une bonne réponse. Ah, le premier existe.
Ok.
C'est, alors le nom abrégé c'est Suka Suka.
Ok.
Donc voilà. Je l'ai pas vu.
Suka.
Bliat. Mais alors. Ah oui, la suite. Je suis réincarné dans un monde sans femmes. Deuxième proposition, je me suis réincarné dans un harem inversé.
Je crois que les deux existent.
Je mettrai le 2.
Moi je dirais les deux aussi.
Et bah c'est une mauvaise réponse, aucun des deux n'existe.
Ah merde.
Ah bon?
Non. Alors peut-être que ce sont des concepts.
Dans un harem sans femme.
Ouais, alors
ouais, pour moi.
Il y a moyen que le l'anime existe en lui-même mais aucun anime ne porte ce nom.
D'accord.
La suite. Aimes-tu ta maman et ses deux attaques pouvant cibler j'en ai marre. Aimes-tu ta maman et ses deux attaques pouvant cibler plusieurs cibles? Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, aimes-tu ta maman et ses deux grosses armes détruisant tous les ennemis?
Ils arrêtent un peu les Japonais.
Je sais pas, je dirais la première.
Le deuxième.
C'est Victor qui a une bonne réponse.
Ah, punaise,
le premier existe.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Je suis allé chercher dans les méandres. Là. Mais tout ça existe et tout ça est sur Crunchyroll, hein, je tiens à préciser. La suite, allez, il nous en reste deux, on a le temps.
Ouais, on a le temps. Ouais.
Alors, j'ai tué des slimes pendant 300 ans et j'ai atteint le niveau max. Ça, c'est la première proposition. J'ai terminé 300 donjons et je n'ai toujours pas atteint le niveau max. C'est la deuxième proposition.
Le premier.
Aucun des deux.
Moi, j'ai le premier aussi.
C'est un bon point pour Thomas et Arthur.
Ouais, 4 points pour Arthur, 3 points pour Victor et moi.
Alors là, c'est peut-être l'égalisation, ou alors une victoire.
Ou alors la victoire pour Arthur.
C'est le dernier. Là, c'est le dernier. Allez. Imagine un enfant des terres du dernier niveau déménage dans la ville de départ. Deuxième proposition, imagine un démon méga puissant apparaît dans la ville de départ.
Bon, numéro 2.
Moi, je dirais les deux.
Aucun.
Et bah, c'était le premier.
Ah.
Donc, on est sur une victoire d'Arthur.
Qui l'a cru.
Bravo.
Merci.
Alors
merci,
voilà.
Merci.
Alors j'ai insisté.
J'ai
beaucoup.
L'impression que c'était quand même un peu du jeu de hasard hein, pour beaucoup.
Aussi, littéralement.
Alors oui, parce qu'en fait, je voulais un jeu où tout le monde puisse gagner.
Ah bah oui, bah bravo.
Mais
inclusif, c'est bien. Ça.
J'essaye. Hein, mais bon, à défaut du plateau, on fait ce qu'on peut avec les jeux. Ouais.
Alors, on avait peut-être des experts et des expertes en isekai qui nous écoutaient et qui devaient se dire mais quelle honte, autour de la table ils ne connaissent rien.
Il y en a trois animés qui ont été cités qui ne sont pas des isekai. Hein. Le reste, ce sont des isekai et je sais pas ce qui se passe dans ce délire. Un jour, il va falloir qu'on en parle.
Bah, je me suis réincarné en machine à laver, c'était quand même pas mal. Hein.
mais c'est vrai, franchement, en me baladant pour trouver des noms d'animés un peu chelous, je suis tombé que sur des isekai, c'est ça qui est ouf.
Ah ouais. Alors, je précise hein, aussi pour les auditeurs et auditrices, t'as prévu dans la liste de potentiels sujets qu'on s'est dit, t'avais dit. Les isekai, on en a marre.
Ouais, faudra qu'on en parle.
Faudra qu'on en parle. Donc, vraiment, force à toi et bravo à toi de t'être plongé là-dedans, sachant que, justement, tu en avais déjà marre.
Oui, et sachant qu'il y en a quelques-uns que j'ai regardés hein, dans cette liste. Ouais. Je ne dirai pas lesquels.
pour des raisons évidentes.
D'intégrité.
Bon bah c'est cool en tout cas. Bah merci à vous d'avoir participé à notre émission. Victor, Arthur, Steven, c'est toujours un plaisir d'être
merci
avec
à toi
vous,
Thomas voilà. Merci d'avoir animé et d'avoir fait le programme et les virgules,
oh
les pauses musicales.
Oh on vous laisse tous les deux. Hein.
Merci. Et merci à vous, chers auditrices et auditeurs, d'être fidèles à notre programme. Pour les deux mangas donc à gagner, eh bien vous retrouverez notre post Facebook ou Instagram à partir de ce lundi. Vous pourrez ainsi le liker ou le partager et bien pourquoi pas tenter de remporter ces deux mangas. N'hésitez pas, c'est gratuit et ce sont toujours des proposition de qualité.
Faut liker ou commenter?
Je sais pas encore, je vais décider de la règle parce qu'en fait on a vu avec Erwan, il faut peut-être demander plusieurs choses à la fois. Voilà.
D'accord.
Alors, liker, partager, commenter.
Amener un peu les gens à faire davantage d'interactivité qu'un simple like. Voilà, on verra bien en tout cas. Blockchain est juste à côté, voilà, ils nous attendent, ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks. Et bien nous, on va les lancer avec leur générique et vous nous retrouvez donc le mois prochain, deuxième vendredi du mois, toujours à partir de 19h sur Radio Campus Orléans 88.3.